La Formule Rand a 79 ans aujourd'hui. Ben oui, c'est une décision rendue par le juge du même nom le 29 janvier 1946 qui fait en sorte qu'on impose à tous les employés d'une unité d'accréditation de payer une cotisation syndicale. On va en parler avec la spécialiste du monde du travail, Annie Boiland, présidente du réseau Annie RH. Salut Annie!
Bonjour Valérie.
Le sujet qui t'a été inspiré par les 1700 employés qui ont perdu leur emploi suite à la fermeture d'Amazon, hein?
Eh oui. Alors, je commence par expliquer la formule RAND. C'est pas tout le monde qui est familier avec le concept. Tu sais, Valérie, moi, je suis diplômée en relations industrielles. Quand on commence nos études en RI, en relations industrielles, premier cours, premier mot qui sort de la bouche des profs, c'est formule RAND. C'est au cœur de notre réalité syndicale au Québec. Ce que ça fait, cette formule-là, comme tu l'expliquais, c'est ça qui fait que tous les employés d'une unité d'accréditation devront payer leur cotisation syndicale, qu'ils soient affiliés ou non avec leur syndicat. Donc, c'est quelque chose qui donne du pouvoir au syndicat. Des fois, on se fait poser la question, tu sais, pourquoi je peux pas être prof au Québec puis ne pas être syndiqué? Comment c'est que tous les profs sont nécessairement syndiqués au Québec? La réponse, formule RAND. Pourquoi je ne peux pas être une infirmière, travailler dans un hôpital et dire, ben moi, ça ne me tente pas de payer mon 1 000 de cotisation syndicale cette année, j'ai autre chose à faire avec mes sous. Pourquoi ne puis-je pas avoir ce choix? La réponse, formule RAND. Donc, c'est vraiment ce concept-là qui est tout au cœur de ce que nous faisons, de comment nous gérons les relations syndicales.
Puis, pourquoi on s'interroge sur la pertinence de la formule RAND 79 ans plus tard?
Parce que Valérie, il se passe bien des choses en 79 ans dans le monde du travail. Si je nous ramène il y a 79 ans, Valérie, toi et moi aurions été sur les lignes de piquetage en avant de la file, en train de déchirer notre chemise pour protéger les droits des travailleurs. Il y a 79 ans, le monde du travail était tellement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Rappelons-nous, d'abord, seulement 5% des employés de 35 ans et plus étaient scolarisés. C'était avant l'adoption de la loi sur la santé et sécurité au travail, avant l'adoption de la loi 101 sur les langues officielles protégeant le français ou dans nos organisations, c'était avant l'arrivée de la santé et sécurité de la commission des normes du travail. Valérie, des fois, on parle avec nos grands-parents puis ils nous parlent de comment c'était quand ils travaillaient à l'époque. Tu te souviens, tu sais, les cheveux nous dressent sur la tête. Des fois, on voit ça dans des vieux films. Les accidents de travail étaient monnaie courante. C'était épouvantable des conditions de travail à l'époque. Et il y a 79 ans, quand le juge Rand a pris cette décision, c'était la bonne décision. Il fallait protéger les employés, il fallait donner du pouvoir aux syndicats. C'était la bonne chose à faire. Maintenant, la question qu'on pose, 79 ans plus tard, considérant que les choses ont beaucoup changé dans nos environnements de travail, est-ce encore requis?
Annie, moi, je te dirais qu'il y a 79 ans, toi et moi, on serait dans une cuisine avec 10 enfants ou encore religieuse. Mais ça, c'est un commentaire.
Tellement vrai. On n'aurait même pas le loisir de se parler de ça, c'est vrai.
C'est quoi l'état de la syndicalisation au Québec en 2025?
77% des employés syndiqués au Québec sont des employés, des fonctionnaires. Donc, des gens qui travaillent dans un palier de gouvernement ou un autre, là, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Mais ce que ça fait, ça veut donc dire que la formule RAND, aujourd'hui, elle protège principalement les employés gouvernementaux, la fonction publique, contre l'employeur, mais souvent l'employeur, ce sont les payeurs de taxes. Et des fois, ça crée des iniquités, parce que des fois, il y a des employés qui paient les taxes, qui paient les salaires des fonctionnaires, ils n'ont même pas eux-mêmes les bénéfices pour lesquels ils offrent aux fonctionnaires. Tu sais, je pense notamment aux fonds de pension. Fait que déjà, la formule RAND, elle protège surtout et avant tout nos employés fédéraux, gouvernementaux.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on répond à ces 1700 employés d'Amazon qui ont perdu leur emploi?
Oui, ça, c'est la grande question. Parce que je défais le film avec toi, là, puis on regarde ça ensemble. Au début, on était en mai 2024. C'était à l'entrepôt TXT4 de Laval. Et là, il y a dans un entrepôt qui emploie 240 personnes. Et il y a eu une demande d'accréditation. Ça veut donc dire qu'il fallait qu'il y ait 50% plus un d'employés qui voulaient se syndiquer pour faire cette demande-là. On est donc en train de se dire qu'il y avait 110, 115 personnes dans cet entrepôt qui ont voulu se syndiquer. Ils ont obtenu leur accréditation et à cause de la formule RAND, tout l'entrepôt est devenu syndiqué. et on connaît l'histoire, par ricochet, un peu comme un jeu de domino, ben tout le monde dans l'histoire ont fini par perdre leur emploi. Si aujourd'hui on remettait en cause la formule RAND, ce qui se passerait, c'est que les 110 employés qui voulaient syndiquer, ils pourraient syndiquer, ils auraient le droit de syndiquer comme ils voulaient. Mais les autres, on aurait coupé la cascade de domino. Les autres n'auraient pas été obligés de se syndiquer, puis aujourd'hui, ben ils seraient dans une toute autre posture. Parce que même si on est tous d'accord pour dire qu'Amazon, c'était pas un bon employeur, on sait que les salaires étaient entre 20 et 21 $ de l'heure, puis que l'employeur demandait aux employés d'être très prompts à répondre lorsqu'on les interpellait sur les heures de travail. Ce n'était pas parfait. Mais il reste que ces gens-là, qui sont souvent des gens qui sont des immigrants, ils avaient un emploi. Là, aujourd'hui, dans un contexte où, d'abord, le taux de chômage sur les emplois non spécialisés est beaucoup plus élevé qu'il l'était il y a quelques années, là, présentement, ça frôle même 10 % dans certains endroits. Donc, c'est difficile de retrouver un emploi non spécialisé. Puis, de surcroît, on peut tous anticiper là que le futur économique va être un petit peu ébranlé dans les prochains mois, minimalement. Donc, il n'y a rien qui nous dit que notre économie va être florissante et qu'il sera facile pour ces gens-là de retrouver un boulot. Je reviens donc, tu posais la question, qui devrait répondre de la perte de ces emplois-là? Bien, moi, c'est un petit peu le propos aujourd'hui. Parce que d'un côté, il y a le syndicat, la CSN, qui a aidé les employés à syndiquer. Là, la CSN, elle regarde les 1700 emplois perdus, mais maintenant, on parle même de 3000 avec les emplois secondaires. La CSN, elle regarde les employés, puis elle dit, « Ah, ben on est désolé, c'est parce que l'entreprise, il a triché. Ils n'ont pas été gentils, ils n'auraient pas dû faire ça. Fait qu'on est désolé que vous ayez perdu votre emploi. » Mais au passage, ils ont cotisé les cotisations syndicales de ces employés plus démunis pendant toute la période où ils étaient syndiqués. Fait que si c'est pas la CNSN, on regarde nos gouvernements. Puis là, ben, M. Legault, hein, nous a dit le premier matin, « Ah, moi, j'ai pas bu de jus d'orange ce matin, j'ai fait ma part. » Fait que là, et moi, je me dis, hey, on peut-tu en attendre un petit peu plus de nos gouvernements quand il y a près de 3000 emplois qui sont perdus? Fait que je me dis, si tout le monde a respecté les lois puis tout s'est passé comme ça devait se faire, bien là, je me retourne vers notre ministre du Travail, qui est, on sait, nos élus, ce sont nos législateurs, c'est ça, c'est eux qui font évoluer nos droits. Puis je regarde notre M. Boulay, qui est avocat de formation, puis je me dis, bien là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses à moderniser dans notre législation, parce que c'est drôlement moche que 3000 personnes se retrouvent sans emploi dans le contexte dans lequel nous sommes présentement. Je trouve qu'il faut responsabiliser quelqu'un, quelque chose, dans quelque part dans cette histoire-là.
Puis il faut dire aussi que j'imagine que s'il y avait eu des employés syndiqués et des non-syndiqués, si on avait des gens à mettre à la porte, bien, ce seraient les non-syndiqués qui auraient eu à quitter à ce moment-là.
Possiblement. Mm. Ou les syndiqués, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se serait passé. Puis c'est vrai que ça leur a enlevé du pouvoir aux syndicats. On est bien d'accord, Valérie. Là, je ne prétends pas que ce serait une solution parfaite. Mais ce que je dis, c'est que ça leur a l'avantage de laisser aux gens la possibilité de choisir.
Mm-hmm. Oui.
Nos immigrants qu'on accueille, qui étaient les principaux employés dans ces entrepôts, bien, je me dis, on les accueille, ils sont venus de loin, ils passent à travers nos hivers solides, là, colosses. Peut-on leur faire confiance pour choisir par eux-mêmes s'ils veulent ou pas la protection d'un syndicat, et considérant tout ce qu'il y avait à choisir là-dedans versus leur imposer, parce que 110 personnes se trouvent à faire perdre l'emploi de 3000 personnes dans cette histoire-là. Donc, au lieu de l'imposer à tout le monde puis ne pas leur donner de choix.
Oui, je comprends. Puis 79 ans, comme tu dis, il peut s'en passer des choses. On s'en reparlera dans 79 ans, Annie.
Avec grand plaisir. Un rendez-vous, Valérie.
Merci, Annie Boiland.
Ça fait très plaisir. Bonne soirée.
Bye-bye.